20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Apprentissage et transmission des savoirs sont-ils le propre de l'homme? Dans un auditorium surchauffé par la cognition, ethnologues, anthropologues, éthologues et archéologues, réunis en conclave à la Cité des sciences et de l'industrie sous l'égide de l'INRAP, ont réfléchi à ce qui fait l'humanité et l'animalité, l'inné et l'acquis, la culture animale. Certains animaux auraient-ils les capacités de diffuser des connaissances, des savoir-faire, de façon intelligente? Au croisement de l'anthropologie et de l'éthoarchéologie des chimpanzés, Frédéric Julien, maître de conférence à l'EHESS, se penche justement sur la capacité des premiers hommes à exécuter des gestes dans un but déterminé. Ceux-ci auraient-ils possédé une intelligence praxique? Pour tout comprendre, c'est à l'abri du brouhaha du Grand Musée que je l'ai retrouvé. Frédéric Julien, dans votre métier, il faut être observateur. Tout pourrait commencer par l'observation d'un héron au Japon.
Pourquoi pas? Au Japon, le long de la Kamogawa, qui est une rivière au centre de la ville, qui traverse la ville du nord au sud. C'est un des hauts lieux de l'observation de l'éthologie japonaise, depuis les fondements de l'éthologie japonaise par Imanishi dans les années 20-30 du XXe siècle. C'est là que s'est fondée, je dirais, l'école de Kyoto, l'école d'éthologie de Kyoto, où on a observé, d'abord des petits insectes, des petits invertébrés, et puis après des plus grosses bêtes, et où il y a une pensée du milieu, qui n'est pas la pensée darwinienne avec laquelle on pense en Occident, mais une autre pensée, où la pensée, c'est une pensée de la relation, une relation au milieu, et dans ce milieu, les animaux sont aussi en relation avec les hommes et avec d'autres animaux. Donc c'est une pensée écologique d'un autre type qui a fondé une vision de la nature et de l'animal qui est très différente de la nôtre. Au Japon, l'an dernier, par hasard, en hiver, j'ai observé le long de cette rivière qui est un peu fondatrice des recherches au Japon, des hérons en train d'utiliser des petites branches d'arbres qu'ils avaient récoltées, mais pas directement. En fait, ils s'en servaient en les mettant en travers sur des petits bancs de rochers, un endroit où il y avait très peu de profondeur d'eau, pour créer des micro-barrages et piquer les insectes et les petits animalcules qui se bloquaient derrière ce bâton. Alors là, on a un espèce de dispositif inventé par un non-humain qui n'est pas un grand singe, qui est très loin de nous dans l'histoire des radiations évolutives. C'est un oiseau, mais un oiseau très intelligent. Il y en a d'autres, mais les hérons sont très intelligents. Et on a d'autres exemples de par le monde de comportements de ce type-là, d'aménageurs qui ne laissent pas de traces si on ne les voit pas, si on ne les saisit pas de façon opportuniste parfois.
Ce héron, il avait innové ou il savait ça déjà depuis longtemps?
Ah, une vaste question. Je pense peut-être que c'est une occurrence pour moi. C'était la première fois que je le voyais faire ainsi. Et c'était peut-être une innovation, peut-être c'était la première fois. Mais je pense que ce sont des comportements, des activités qui sont assez répandues chez ces espèces. Et on trouve d'autres hérons avec manipulant des outils, fabriquant des dispositifs particuliers, notamment pour pêcher des poissons. Il y a des cas de hérons observés au Canada qui utilisent des chatons d'arbres comme des leurres, qui les laissent en amont et puis qui vont se poser en aval et dont le chaton d'arbre va attirer un poisson et lui, un peu plus bas, il va l'attraper. Il y a des cas de ce type-là et j'ai participé à un film dans lequel il y avait des hérons à Trinidad qui, eux, utilisaient des petites miettes de pain pour pêcher. Donc ils appâtaient le poisson et les poissons approchaient de la rive pour mordre dans ce petit morceau de pain. Et les hérons attrapaient les poissons. Donc là, on avait des cas de pêche, donc de leurre. Donc on a des animaux extrêmement intelligents en dehors des primates. Et ça, c'est aussi intéressant pour nous, pour comprendre aussi les facteurs cognitifs en dehors de corps humain, de corps anthropomorphes.
Vous arrivez à Paris et bien sûr, vous voyez deux corbeaux.
Oui, deux corbeaux. Il n'y avait pas de fromage, mais il y avait des petites viscères, rue Cassette, je peux préciser, dans le 6e arrondissement. Deux corbeaux qui étaient en train de tenter d'exploiter, entre deux voitures et des piétons, un morceau de gras, de viande et de viscères. Et c'était très intéressant de voir à quel point, à la fois, ils coopéraient pour déchirer ce morceau, que de façon seule, simplement en opposant les griffes et le bec, ils n'arrivaient pas à dilacérer, je dirais, alors qu'à deux, ils y arrivaient bien plus facilement. Donc voilà, une observation spontanée, fortuite, samedi en arrivant, il y a quelques jours, et j'étais agréablement surpris. Et là, si on regarde les corbeaux, c'est parce qu'on sait que les corbeaux sont aussi des êtres extrêmement intelligents, trompeurs, moqueurs. Donc pour les éthologues, ils sont bien connus et bien étudiés, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il y a des observations assez formidables qui sont faites sur les corbeaux depuis une quinzaine d'années. On voit des corbeaux qui fabriquent des hameçons pour pêcher des gros vers dans des arbres pourris. Et en fait, ils les crochettent comme un hameçon. Ils utilisent aussi d'autres outils assez standardisés, faits dans des palmes très pointues, qui sont parmi les objets les plus typés, les plus standardisés qu'on puisse trouver. Et ces corbeaux sont très intéressants parce qu'ils sont capables d'innovation. Et en milieu urbain, ils sont capables d'une grande variabilité de comportement. Donc, pourquoi les corbeaux ? Parce que ce sont, comme les hérons aussi, des animaux qui ont un développement cérébral très important et une grande intelligence.
Aujourd'hui, les sciences de la cognition seraient en plein renouvellement. Et quand je dis bien sûr sciences de la cognition, j'y intègre la primatologie ?
Oui, de façon générale, on est face à un bouillonnement à l'heure actuelle. On a un bouillonnement aussi bien dans les recherches en laboratoire, sur l'intelligence animale, sur la capacité des animaux à coopérer, à anticiper des tâches, à résoudre des tâches de façon collective, par exemple avec un râteau qui peut être manipulé qu'à deux individus pour obtenir des fruits ou des récompenses alimentaires. Donc on voit des capacités assez étonnantes. Mais surtout, je dirais, dans les études qui sont faites en captivité, mais surtout on voit des études passionnantes qui sont faites en milieu naturel, où là on découvre une variabilité des comportements bien plus grande qu'on le pensait il y a 10 ou 20 ans. Donc on découvre chez les chimpanzés de savane des comportements tout à fait étonnants, notamment dans des chasses à des animaux qu'on ne pensait pas que les chimpanzés soient capables de les chasser. Donc les chimpanzés sont des animaux chasseurs, ils chassent de façon coopérative, synchronisée. Ils chassent d'autres singes, ou ils chassent des petites antilopes, ou ils chassent différents animaux. Un des sites sur lesquels j'ai travaillé, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, les chimpanzés chassaient des gros serpents, des boas, dans cette région-là, de façon coopérative. Et quand on sait la taille de ces animaux et comment ils pouvaient... donc là, s'en saisir et après les manger, on a une variabilité à laquelle on ne s'attendait pas. Donc on est à un moment tout à fait étonnant où il y a un bouillonnement des observations en même temps qu'une disparition à grande vitesse de ces animaux. Je crois qu'on est à un moment clé des observations et il nous faut le décrire le plus intensément possible.
Dans vos disciplines, on a souvent pensé dans des cadres qui sont dualistes. D'un côté, par exemple, l'humanité, de l'autre côté, l'animalité. Aujourd'hui, ce serait à revoir.
Effectivement, on est arrivé un peu aux limites de notre système. Les sciences humaines se sont fondées il y a 200 ans autour d'un certain nombre de structures de la pensée qui sont à la fois des structures traditionnelles et des structures savantes dans lesquelles on a bipartitionné l'humain d'un côté, l'animal de l'autre, la nature d'un côté, la culture de l'autre, l'esprit, le corps. Le sujet, l'objet, donc ces grands dualismes aujourd'hui sont en train d'être remis en question, non seulement d'un point de vue théorique par les philosophes, mais aussi, on cherche plus le propre de l'homme, hein, pour le dire simplement, ça n'a pas de sens. Ce serait définir une essence humaine comme si nous n'étions pas aussi des animaux. Nous sommes des animaux, comme un chimpanzé ou comme un serpent. Nous sommes des animaux. Nous sommes des primates, d'une façon un peu plus précise. Donc, en fait, cette opposition est une opposition structurelle qui correspond à différentes visions du monde. Elle ne correspond plus aux visions savantes. Même si elle a été utile dans l'histoire des recherches. Un archéologue a discriminé, a fait la séparation entre ce qu'on appelle du nature-fact, du géofact, un objet qui est produit par, où on va avoir un enlèvement, puis on va comprendre cet enlèvement de silex, il est produit par un éclat gélif, donc c'est un fait de nature. Et puis on va voir que cet enlèvement, il a des traces, un point d'impact, etc., qui il est probablement fait par une main. par une intelligence derrière. Donc séparer de façon dualiste, ça a eu son utilité, je dirais d'une certaine façon, pour structurer entre l'artificiel et le naturel, entre l'intelligence et des phénomènes d'une autre nature. Et je dirais tout le 19e et tout le 20e siècle, pour la préhistoire, est un moment d'intelligence dualiste. Aujourd'hui, on l'a dépassé. Et aujourd'hui, il faut dire que ces phénomènes, on ne peut plus les aborder de façon binaire. Alors comment ? De façon ternaire, quaternaire, en rajoutant d'autres facteurs, en rajoutant d'autres dimensions. En tout cas, en s'éloignant d'une analyse simpliste comme ça, qui ne correspond plus à la complexité des choses qu'on observe.
Il en serait de même de l'inné et de l'acquis, qu'il faut là aussi totalement revoir ?
Oui, bien entendu. On a entendu il n'y a pas longtemps une de nos collègues, Gaël Pontarotti, bon philosophe de la biologie, de parler de la question de l'inné et de l'acquis, et de montrer que ces caractères qu'on a séparés de façon duelle entre héréditaire et appris, acquis, ne marchaient plus, même à un niveau génétique, même à un niveau des recherches en biologie. On peut l'appliquer à d'autres domaines, qui sont ceux de l'apprentissage, du langage ou des facteurs culturels qui ne doivent pas être vus dans cette opposition, mais de façon complexe. Prenons un exemple simple. La marche, marcher, c'est a priori quelque chose d'universel. Mais non, on apprend à marcher. Et aussi, on apprend à marcher de telle ou telle façon. Donc, un phénomène qui est de l'ordre de la motricité est à la fois génétique, biologique, écologique, dans un milieu particulier, et culturel. Donc il n'y a pas d'opposition et les approches aujourd'hui que nous avons à voir de l'hominisation, par exemple, de l'évolution humaine, doivent être prises dans cette complexité, non pas de façon dualiste.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Frédéric Julien, comment penser la transmission des savoirs quand on n'est pas un sapiens sapiens, quand on n'est pas un homme moderne?
Peut-être en dépensant, en ne pas pensant, en pratiquant, en éprouvant aussi. C'est-à-dire que comment se mettre à la place d'un homo habilis pour un préhistorien? Alors un certain nombre de mes collègues font de la taille expérimentale du silex ou des matières lithiques dures pour reproduire à l'identique les outils des hommes du paléolithique inférieur. C'est une façon de procéder, mais un outil ne vaut que par son usage et pas uniquement par sa fabrication. Et il est important de comprendre, d'essayer de se mettre dans l'action, de comprendre l'ensemble des facteurs qui jouent dans l'utilisation de tels objets. Et aujourd'hui, on est bien sûr limité et on commence à se mettre dans la peau d'un être qui fait 1m20 ou qui fait 1m40 de haut, qui n'a pas la même intelligence, qui n'est pas... Par exemple, si on prend un australopithèque, donc on suppose qu'il n'a pas des capacités langagières. Donc comment transmet-il? Est-ce qu'il transmet de façon active? Et puis quels sont les gestes et les activités que nous transmettons de façon active dans les savoir-faire traditionnels? Par le mouvement? Alors on parle d'imitation, on parle de facilitation, on parle de répétition des gestes par l'acquisition. Donc ce sont des savoir-faire techniques qui prennent pour certains très longtemps d'apprentissage et qui n'impliquent pas forcément une conscientisation et une représentation abstraite, une mise en mots. Et dans beaucoup de cultures humaines actuelles, on n'a pas les mots pour le faire. On n'a pas les mots qui correspondent dans le lexique, qui correspondent aux objets, aux savoir-faire particuliers. Dans beaucoup de sociétés, il n'y a pas ces mots-là. C'est parce que ça passe avant tout par des gestes, par des coprésences, par des répétitions, par la socialisation et par l'intégration dans un groupe. Et tout le monde n'est pas capable. Il y a une variété importante de compétences. Certains vont y arriver, d'autres ne vont pas y arriver, à faire des poteries, à tisser, à tailler du silex ou à d'autres activités manuelles ou tout simplement d'autres tâches bien plus simples. Collecter des graines ou des fruits dans la savane ou en forêt pour un animal ou pour un humain, ça peut correspondre à des routines qui ne sont pas très... exigeantes en termes de contraintes, en termes d'intelligence de la tâche, mais qui sont pourtant acquises et très importantes, parce que c'est par ces conduites-là qu'on s'adapte, on répète, on mange, on se nourrit, on se défend, etc. Donc on a, je dirais, mis une plus-value à étudier les objets fabriqués, à étudier les techniques élaborées. Mais tout compte fait, dans les phénomènes adaptatifs, les conduites les plus courantes sont aussi très importantes. Elles ont été malmenées, elles n'ont pas été étudiées. Mais marcher, se déplacer, se trouver dans un environnement, optimiser ses déplacements, etc., ça implique pas un savoir-faire particulier hautement technique. Ça implique d'autres intelligences, des intelligences spatiales, par exemple. Et à mon avis, ce genre de choses, pour comprendre les phénomènes d'optimisation, sont très importants également.
À vous écouter, j'ai l'impression qu'il y a un véritable savoir réfléchi chez les animaux.
Là, je parlais de préhumains, et effectivement, pourquoi pas, préhumains, c'est pas forcément des humains. Des savoirs réfléchis, oui, on a quelques cas où on peut objectiver des connaissances réfléchies, autrement dit, une représentation, un modèle social qui va être suivi de telle ou telle façon. Dans le cas du cassage des noix, ça a pu être montré par certains chercheurs, où on a des éléments variants, la façon de poser une noix, la façon de jouer le mouvement, qui va être faite ostensiblement. Donc ça veut dire qu'il y a une réflexion sur le geste lui-même de la part de l'animal qui va le montrer à son enfant. Donc là, on a une objectivation. Mais je dirais que ces faits-là, ces faits didactiques, pourrions-nous dire, sont totalement secondaires. Et ils sont aussi secondaires dans beaucoup de cultures humaines, et on peut suspecter de cultures préhumaines. Donc, je dirais, l'enseignement, la question didactique, c'est une question très occidentale, de ce point de vue-là.
Justement, vous n'aimez pas le terme de culture animale. Vous ne le revendiquez pas du tout.
Je pense que c'est utiliser le terme de culture animale, c'est englober. Alors, il y a un effet démagogique derrière qui permet d'avoir des financements pour faire des recherches sur les animaux. Ça, je l'écarte. Il y en a un autre qui est d'ordre éthique, qui est pourquoi ils n'auraient pas des cultures. Donc, il y a aussi une militance forte là-dessus. Mais il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de culture, on parle aussi d'un ensemble de phénomènes très complexes et qu'on va trouver à un haut niveau, effectivement, chez Sapiens Sapiens, chez les hommes, et qu'on va avoir trouvé d'une autre nature dans le monde animal et probablement chez les préhumains. Alors pourquoi utiliser le terme de culture alors que dans certains cas, on ne peut montrer que l'existence de variantes comportementales, de variantes techniques, de traditions, pourquoi pas, dans le sens aussi où c'est transmis et ça perdure sur des décennies, des centaines d'années, voire plus, mais pas de culture au sens fort du terme. Donc moi je suis assez méfiant avec cet effet, je dirais bling bling, du mot culture qui est utilisé à toutes les sauces et qui est utilisé par les biologistes, les psychologues dans des sens qui sont très limitatifs et souvent assez ad hoc par rapport à ceux de l'anthropologie et des sciences sociales.
Mais le terme tradition nous vient des États-Unis et il est aussi à la mode.
Oui, tout à fait. Mais disons qu'il a été utilisé le terme de tradition par aussi de façon un peu plus je dirais standardisé par l'éthologie naturaliste, autrement dit celle qui était assez descriptiviste et qui regardait les phénomènes évolutifs et qui regardait pas forcément dans leur dimension sociale et pas forcément dans leur dimension uniquement cognitive ou spécifique. Donc c'est en ce sens-là que je pense que les mots de tradition et les phénomènes de variantes et de tradition et de culture doivent être mises en société, que ce soit une société animale, de primates, de souricates ou de hérons ou d'homo sapiens, peu importe. Mais on ne comprend bien ces variations que si on comprend les dimensions sociales, émotionnelles qu'il y a derrière à l'intérieur d'un groupe et comment c'est partagé à l'intérieur d'un groupe.
Donc nous ne parlerons pas de culture de chimpanzés, nous ne parlerons de tradition de chimpanzés, celle sur laquelle vous travaillez en Côte d'Ivoire. On peut voir dans cette Afrique de l'Ouest plusieurs types de traditions au sein même d'une même population ?
Alors pas au sein même d'une même population, ce sont des communautés différentes et effectivement, oui, on observe des variations dans ces outils qui servent à casser des noix, qui sont une grosse part des ressources, mais aussi dans la façon de pêcher des algues, dans la façon de chasser certains gibiers, dans la façon de se groomer, de se toiletter, dans autres registres qui sont des registres de soins dans certains cas. Par exemple, l'élaboration de petits tabourets pour s'asseoir avec des feuilles, l'élaboration de sortes de gants pour monter le long de troncs d'arbres avec des fortes épines qu'on observe au Sierra Leone chez certains chimpanzés. Je pourrais multiplier les exemples, il y en a plein, qui montrent qu'il y a des variantes régionales, locales, qui font sens dans une communauté et qui diffèrent de la communauté voisine. Donc il y a des choix. Alors le mot choix est un peu fort et un peu trop anthropomorphisé, mais je dirais que, parce qu'ils ne sont pas forcément conscients, mais il y a ces types-là de variations qui sont importants et qui aussi diffèrent de certaines populations d'Afrique centrale ou d'Afrique de l'Est.
Il faut dire que ce cassage de noix est quelque chose de fondamental, qu'il s'opère essentiellement sur la côte ouest de l'Afrique et qu'il exige un apprentissage. On a vu dans ce colloque que des enfants de 3 ans, dans une maternelle, étaient par exemple incapables de casser des noix.
Oui, bien entendu, ce sont des tâches relativement complexes qui sont pas réussies par les petits-enfants chimpanzés, mais qui sont pas réussies aussi par des petits-enfants humains. Et ma collègue Blandine Brill a fait des comparaisons entre les deux pour montrer effectivement que il faut pouvoir hiérarchiser les tâches, il faut pouvoir explorer les propriétés des matériaux et de l'action qu'on est en train de réaliser pour y arriver. Et beaucoup de chimpanzés qui n'ont pas de modèle, adultes même, ou qui ont vécu en dehors, sont incapables, comme les petits-enfants, qui, d'un point de vue ontogénétique, n'ont pas encore les développements cognitifs ni moteurs qui leur permettent de comprendre ces rapports-là, et donc de cassage efficace.
Il faut attendre quel âge pour y avoir combien d'expérience pour pouvoir savoir casser une noix quand on est chimpanzé?
Alors, ça dépend. Tout dépend de... On peut dire que à partir de 4-5 ans, ils y arrivent. Mais tout dépend du type de noix. Les noix les plus étudiées sont les noix de palme, qui représentent une noisette à l'intérieur, ou les noix de coulée du lys, qui aussi dans lequel il y a une petite noisette ronde, un peu l'équivalent de notre noisette européenne. Mais ça, c'est relativement facile. Mais vous prenez d'autres noix qui sont bien plus compliquées, avec plusieurs cerneaux et des duretés 100 fois plus fortes. Donc là, vous avez des contraintes mécaniques qui font qu'il vous faut 10 ans d'apprentissage pour arriver à ouvrir sans écraser les cerneaux, donc l'aliment, avant de pouvoir réussir la tâche. Tout dépend. Et il y a des différences qui sont engendrées. Des mâles et des femelles ne réussissent pas forcément de la même façon parce qu'il y a des questions de contrôle moteur, il y a des intérêts différentiels suivant les sexes, parce que les tâches ne sont pas forcément, et les activités ne sont pas forcément les mêmes chez les mâles et chez les femelles. Donc il y a plein de facteurs qui peuvent jouer, qui sont des facteurs sociaux et qui importent dans l'acquisition même du savoir.
J'ai lu que les femelles étaient très aptes à casser ces noix, y arrivaient très bien.
Pour certains sites, oui, effectivement, on se rend compte sur le site de Taï, mais on l'a évoqué à diverses reprises dans certaines émissions sur France Culture ou ailleurs, ça a été décrit par certains de mes collègues. Effectivement, les femelles sont plus habiles à casser, notamment dans des conditions plus difficiles. Elles anticipent la saison de fructification, vont casser par exemple les noix dans les arbres. Donc elles doivent gérer à la fois un paquet de noix qu'elles ont collectées, un percuteur, puis un équilibre, et il faut casser la noix, puis pas faire tomber les autres, faire une rotation, les manger, etc. Donc c'est une tâche très complexe que les mâles réussissent bien plus difficilement que les femelles sur le site de Taï, qui a été travaillé par des collègues suisses, notamment.
Comment se fait l'apprentissage? Le petit singe chimpanzé regarde la femelle faire?
Déjà, pour un petit, il est collé à sa mère durant, en gros, les 3 premières années de sa vie. Et même s'il n'agit pas avec sa mère, il est en mouvement avec elle. Il fait corps avec elle. Donc elle est en train de casser, il est avec elle. Elle est en pleine activité, d'une certaine façon. Il apprend déjà au contact du corps de sa mère. Ça, c'est déjà une première chose. Après, il y a effectivement... des actions un peu plus intentionnelles où les mères laissent de façon opportune, bien volontaire, certaines noix ou certains percuteurs qui sont manipulables par les petits à portée de main. Donc il y a un dispositif qui est plus ou moins agencé. Je ne dis pas forcément que c'est des choses stratégiques, ça se fait comme ça. Mais suivant l'âge de l'enfant, les actions de la mère vont être différentes, elle va jouer différemment. Et à un certain moment, elle peut aller plus loin jusqu'en laissant le bon percuteur et les bonnes noix au bon endroit. Et donc il y a une facilitation qui joue un rôle important et qui n'implique pas forcément une imitation directe, qui n'implique pas forcément une démonstration, même si on a une ou deux occurrences de ça décrites par Christophe Busch. Mais voilà, ça, ces choses-là sont importantes et montrent la création de conditions.
L'apprentissage peut-il s'opérer aussi au travers de la diffusion de groupe à groupe au sein de ces communautés de chimpanzés?
Oui, je crois, de toute façon, si on parle transmission, il faut aborder la question de façon complexe. Et les éthologues cognitifs ou les psychologues sont sur la question de la transmission, de l'apprentissage, dans des conditions, entre individus ou par des individus d'un point de vue ontogénétique. Mais si on est anthropologue ou préhistorien, autrement dit un anthropologue du passé, on s'intéresse à comment les choses passent d'un groupe à un autre, comment ça se diffuse, comment ça se dissémine. Et la question de la transmission, elle est équivalente à la question de la diffusion. Alors, dans le temps, parce que, comme j'ai pu le montrer, par exemple, certains ateliers de cassage durent sur des centaines d'années. Des collègues ont mené des fouilles archéologiques de sites chimpanzés, sont allés jusqu'à des durées de plusieurs milliers d'années, de plus de 4000 ans. Donc on sait qu'il y a une permanence de ces activités-là. Donc ça veut dire qu'il y a une transmission sur du long terme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une continuité. Mais ça veut dire que les conditions de présence, de coprésence de ces animaux, de leur milieu, font que les mêmes types de pratiques perdurent. Après, dans l'espace, effectivement, les femelles migrent d'un groupe à un autre et peuvent apporter des variations d'une technique qui existerait dans une communauté à une autre. Alors, est-ce que l'autre va la recevoir et va l'accepter? Ça, c'est l'idée, je dirais, qu'avait développé André Leroy-Gourhan pour les sociétés humaines, de milieux techniques et d'acceptabilité. Parce que les conditions sociales, économiques, mentales, cosmologiques, pourquoi pas. Alors là, on est né chez des animaux, je vais trop loin. Mais pour des sapiens, on soulève toutes ces questions-là. Un transfert technique ne se fait pas sans aussi qu'il y ait effectivement les besoins et les conditions dans lesquelles on peut les opérer. Nous servons des scies dans le double sens en Europe ou en Occident. Pour scier un morceau de bois, on va jouer dans les deux mouvements. Au Japon, on va tirer la scie vers soi. Ce mouvement-là va faire que transférer une technique de sciage japonaise chez un occidental va pas être si simple que ça. C'est pas parce qu'on a l'objet qu'on a le savoir-faire et l'usage dans le même sens. Donc un objet technique ou une innovation a besoin de marcher dans les deux sens. Et de pouvoir se transmettre d'un endroit à un autre parce que les conditions le permettent et des conditions qui sont aussi des conditions pas simplement matérielles, physiques, mais aussi des usages et ou de la flexibilité des usages. Les gens sont prêts à varier, sont prêts à apprendre de nouvelles choses. Pour quelles raisons? Bon, parce qu'il y a un retour alimentaire, parce qu'il y a un intérêt en termes de plaisir, etc., etc. On a souvent pas pris en compte aussi ces choses-là. Le plaisir de la découverte, le plaisir de la répétition, du beau geste. Je suis sûr que quand on fait des gestes 10 000 fois, on ne les fait pas uniquement de façon mécanique. Il y a une espèce de dialogue avec la matière qui s'inscrit, qui fait que vous commencez à pouvoir aussi éprouver un plaisir à bien le faire. Alors qui commence à être doté de ce genre de choses? Quand? Des mystères à résoudre.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Pierre-Henri et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture recevra Yves Coppens pour la parution de ses mémoires, Mémoires d'éléphants.